Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, l'actualité en France était dominée par le démantèlement de la jungle de Calais. Plus de 2000 migrants, hommes, femmes et enfants, ont dû être répartis sur le territoire français, ce qui a parfois donné lieu à des protestations et même parfois des actes violents dans les communes concernées. En Allemagne, pays qui a accueilli près d'un million de réfugiés ces derniers mois, certaines communes, elles, voient ces nouveaux arrivants comme une chance, notamment dans les villages confrontés à une hémorragie démographique. À l'est de Berlin, la petite commune de Goltzow a même pu sauver son école grâce à des familles de réfugiés. C'est un reportage de Julien Méchaussier.
« 11h30 à l'école primaire de Goltzow, c'est la pause déjeuner bien méritée et tant attendue par les enfants. Une école menacée par l'exode rural. Depuis la chute du mur, le petit village a perdu près d'un tiers de ses habitants. Ils sont encore 836 à vivre ici, à quelques kilomètres de la frontière polonaise. Mais pour Frank Schütz, le maire de Goltzow, il était hors de question de rester les bras croisés.
Ici, c'est la vraie campagne. Parcourir 70-80 km pour aller au travail, ça n'a rien d'exceptionnel. Alors imaginez, dans une région comme la nôtre, voir l'école fermer ses portes. Pour moi, c'était inimaginable. Avec nos moyens, nous nous sommes donc battus contre l'administration scolaire, une administration qui ne voulait plus de cette école.
Let's read together. It isn't,
what?
Après la pause, c'est cours d'anglais pour les plus grands. Gabi Thomas, directrice de l'école, remplace aujourd'hui une institutrice tombée malade. Selon les règles de l'administration scolaire, une classe doit être composée d'au moins 15 élèves. Avant la rentrée de 2015, seuls 14 enfants étaient inscrits au cours préparatoire. La fermeture de cette classe aurait marqué la première étape vers la disparition de l'école. Frank Schütz a alors l'idée de faire venir des familles de réfugiés syriens dans le village après avoir convaincu Gabi Thomas.
Nous avions surtout peur de nous tromper, de mal faire les choses, parce que nous allions être confrontés à une culture différente. Plus que la langue, c'est ça qui nous inquiétait. Et bien sûr, comment allaient réagir les autres élèves? Est-ce que nous allions pouvoir continuer à atteindre nos objectifs pédagogiques dans des classes avec des enfants peut-être traumatisés? Tout cela nous a beaucoup préoccupés.
Davor hatten wir schon großen Respekt.
Et la rentrée 2015 a été consacrée à l'accueil de trois enfants syriens âgés de 6 à 10 ans.
Quel est l'endroit, le pays où l'on se sent chez soi? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien dans le pays dans lequel je vis? Et pourquoi tant de personnes en Syrie doivent-elles actuellement quitter leur pays? Dans chaque classe, nous avons travaillé sur ces questions.
Noah, 10 ans, fait partie des meilleurs élèves de sa classe. Si elle a commencé en classe de CP, le temps d'apprendre l'allemand, elle suit désormais les cours avec les enfants de son âge. Après un an passé à Goltzow, elle parle parfaitement allemand.
Die Lehrer sind lieb.
Les instituteurs sont très gentils, les autres enfants aussi. Et puis les matières que l'on apprend, ce n'est pas trop difficile. Je m'amuse beaucoup ici. J'aime bien aller au centre aéré aussi. Et à la maison, nos voisins sont gentils avec nous. Ils nous aident beaucoup. On va aussi se baigner dans des lacs avec eux quand il fait beau.
Si Noah et les autres enfants réfugiés se sentent à présent chez eux à Goltzow, il a fallu surmonter les craintes des habitants du petit village. Frank Schütz a d'emblée opté pour le dialogue, a pris au sérieux les peurs et organisé des débats publics.
Oui, il y avait des inquiétudes, des peurs parmi les habitants. Par exemple, sur la langue. Si ces personnes ne parlent pas allemand, comment allons-nous faire pour communiquer? Il n'y a malheureusement à Goltzow pas de supermarché ou d'épicerie. Certains m'ont dit, et où ils vont aller faire leurs courses? S'ils ne peuvent rien acheter, ils vont venir nous voler des légumes et des fruits dans nos jardins. C'est ce type d'inquiétudes qui ont été exprimées.
Des inquiétudes vite dissipées par des objectifs communs, venir en aide à ces familles et sauver l'école.
Nous nous entraidons, c'est un soutien qui est réciproque. Grâce à l'arrivée de ces familles, nous avons pu cette année conserver notre classe de cours préparatoire. Et les habitants de Goltzow peuvent continuer à envoyer leurs enfants à l'école, ici.
Mein Kind darf in Goltzow zur Schule gehen.
Et avec l'école, voir le village continuer à vivre, l'histoire peut paraître trop belle. Et pourtant, les enfants réfugiés ont bien trouvé leur place à Goltzow, une histoire qui fait même l'objet dans les médias allemands de nombreux reportages et de plusieurs longs documentaires.
Soumis à rude épreuve, à cran, depuis la vague d'attentats islamistes qui ont touché la France et la Belgique depuis 2014, les forces de l'ordre n'hésitent plus à descendre dans la rue pour crier leur ras-le-bol. Alors qu'en France, les policiers ont manifesté à plusieurs reprises au début du mois, ce sont les militaires belges qui ont défilé cette semaine dans les rues de Bruxelles. Des militaires à bout qui ont appris en plus qu'ils devraient travailler 7 ans de plus avant de pouvoir prendre leur retraite à 63 ans. Reportage de Laxmi Lotha.
Ils n'ont pas le droit de faire grève, mais ils peuvent manifester, habillés en civil, lors d'une journée de congé. Symboliquement, les militaires ont choisi de le faire le jour de la fête du roi. Depuis des mois, depuis les attentats de Paris, la population a appris à vivre avec ces hommes en tenue de camouflage un peu partout dans Bruxelles. Stations de métro, rues fréquentées, touristiques, les militaires patrouillent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. De longues heures, les effectifs manquent. Pascal Poupard, du syndicat CGSP.
Oui, les militaires commencent un petit peu en attraper merde, d'être en rue. C'est des heures de 8h du matin jusqu'à 10h, 11h du soir. Et c'est pendant 3 semaines comme ça, c'est très fatigant. Le Premier ministre nous a félicité les militaires qui étaient en rue. Et pour nous remercier, il nous met 7 ans en plus. C'est vraiment la belle récompense.
Tous ensemble
D'habitude, ils serrent les dents et restent impassibles. Cette fois, les militaires laissent éclater leur colère en lançant des pétards, criant des slogans. « Majesté ministre, nous sommes présents pour vous, vous nous lâchez », peut-on lire sur des pancartes. Boris Moranville, du syndicat SLFP Défense, est tombé de haut quand il a appris la décision du gouvernement sur les retraites. Il rappelle que son métier, à risque, n'est pas tout à fait le même que celui des autres.
« On nous a mis au même rang que tous les autres fonctionnaires. » Sauf que nous sommes les seuls de la nation à devoir tuer si besoin et à être tués.
La décision du gouvernement de repousser l'âge de départ à la retraite déçoit les soldats. Ils la trouvent absurde.
Que voulez-vous que quelqu'un de 63 ans reste dans la rue, armé, en état physique normal, avec tout ce qu'on a déjà vécu avant avec notre passif, et assurer les missions contre le terrorisme, contre tout, la protection en fait, du territoire, tout simplement. Quoi. C'est inadmissible.
Ça va pas. Je vois mal un paracommando à 60 ans encore sauter en parachute.
Certains sont venus avec des sacs remplis de citrons. Ils scandent « Arrêtez de nous presser ». C'est aussi la vie personnelle des militaires qui est bouleversée ces derniers temps. Les délégués syndicaux constatent une augmentation du nombre de divorces. Boris Moranville, du syndicat SLFP Défense.
La mission dans la rue, donc protéger son pays, oui, c'est la base. Mais ce qui se passe, c'est que les gens sont 24 heures sur 24 et parfois pendant des périodes de 10 semaines sans rentrer chez eux. Donc là où le policier vient à 7 heures jusqu'à 18 heures ou 15 heures, je ne connais pas les horaires de leur côté, nous, le militaire, pendant 10 semaines, il est éloigné de sa famille. Donc oui, il y a au niveau des divorces de 30 à 40 cas supplémentaires par rapport à l'habitude parce que les missions extérieures, elles continuent. Je sais que les couples vont mal. Il y a beaucoup de fatigue, etc., etc. Ce qui fait que c'est relativement dur à porter pour les familles à l'heure actuelle. Les militaires et la famille.
L'avenir même de la profession est menacé pour Marc Verhelst, secrétaire permanent de la CSC Groupe Militaire, l'armée vieillit.
Ce qui est incroyable de la part de notre Premier ministre, c'est d'avoir réussi à accepter dans un premier temps un plan stratégique qui voulait le rajeunissement de la population des militaires et au final, le même Premier ministre qui décide de prolonger la carrière des militaires. Dans des conditions pareilles au niveau politique, le pays est gravement en danger.
Un avis partagé par Denis, 49 ans. Il est sous-officier dans l'aviation légère, militaire depuis 30 ans. Il va devoir patienter 7 ans de plus avant de pouvoir partir à la retraite. Pour lui, cette décision va décourager les jeunes d'embrasser la carrière.
Ça ne va pas encourager les jeunes à rentrer à l'armée, c'est impossible. Ce n'est pas ça qu'il fallait faire. On a vraiment l'impression qu'on veut foutre l'armée en l'air en Belgique. Quoi. C'est ce qu'ils veulent, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Parce que chaque pays a besoin d'une armée. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un engagement de jeunes, pour ça il faut leur donner des motivations. Les anciens comme nous, parce que je me considère comme un ancien après 30 ans, ben, on en a marre, quoi. On en a ras-le-bol.
Les syndicats ont rencontré le ministre de la Défense qui a déclaré ne pas pouvoir faire de promesses. Les militaires sont retournés à leur mission. Trump.
L'élection inattendue de Donald Trump à la présidence des États-Unis continue de faire des vagues en Europe. L'Europe où la plupart des gouvernants et la majeure partie de la classe politique n'avaient pas caché leur préférence pour Hillary Clinton. À l'inverse, tous les leaders et partis nationaux populistes européens, à de rares nuances près, se réjouissent et saluent la victoire du peuple sur l'élite. Pour en parler avec nous, Daniel Vigneron de MyEurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors Daniel, tous ces partis populistes ont vraiment de quoi se réjouir ?
Oui, et cela pour deux raisons. D'une part, le discours électoral de Donald Trump reprend tous les grands points des programmes des partis populistes européens. Arrêt de l'immigration, renforcement des frontières, taxes à l'importation, dénonciation d'une mondialisation à outrance ou des élites corrompues. D'autre part, comme ce fut le cas avec le Brexit, les instituts de sondage assimilés aux médias réputés être au service de l'establishment se sont complètement trompés pour la plupart. Ce qui accrédite l'idée que les populistes sont presque tous au bord du pouvoir, alors que l'on tenterait de persuader l'opinion que cette hypothèse reste hautement improbable.
Alors commençons par la France, Daniel. Victoire improbable de Marine Le Pen ?
Eh bien non, pas totalement improbable, Laurent. Pour peu que l'on s'échappe un peu de l'arithmétique traditionnelle et que l'on intègre une dynamique propice au Front National. Face à des candidats susceptibles d'incarner un certain renouveau, Marine Le Pen aura du mal, c'est vrai, à gagner, à moins d'une dynamique extrêmement puissante. En revanche, on ne peut exclure sa victoire face à des représentants typiques de l'establishment, en particulier les présidents sortants. De fait, on oublie trop souvent l'impact du phénomène de démobilisation. Une faible participation profite aux candidats extrémistes, car leurs électeurs restent, eux, mobilisés en pourcentage. Ils peuvent ainsi passer de 37-38% à 50%.
Est-ce qu'il y a des pays européens où la victoire des populistes est encore plus plausible ?
On pense bien sûr à l'Autriche où, après l'annulation du deuxième tour de la présidentielle et un premier report de la date prévue, les électeurs sont appelés le 4 décembre prochain à trancher entre le candidat populiste du FPE Norbert Hofer et l'écologiste Alexander Van der Bellen qui avait remporté d'extrême justesse le scrutin du 22 mai dernier, annulé depuis. Les sondages sont incertains, mais Hofer se voit le plus souvent accorder une légère avance. En tout cas, son élection marquerait le premier avènement d'un national populiste à la tête d'un pays européen, car les chefs de gouvernement hongrois et polonais, qui effectivement flirtent à bien des égards avec le populisme, sont en fait issus de partis traditionnels conservateurs.
Qui s'est montré le plus enthousiaste en Europe après l'élection de Trump ?
Incontestablement, Beppe Grillo, le leader du mouvement italien Cinque Stelle, pour qui cette élection est la déflagration de l'époque qui marque le rejet des médias, des intellectuels, des journalistes. D'après les derniers sondages, le mouvement de Grillo se situe à 30% d'intention de vote, juste derrière le parti démocrate au pouvoir de Matteo Renzi. En outre, l'autre formation populiste, la Ligue du Nord, est donnée à 13%. Il est vrai que les élections générales ne sont prévues qu'en 2018, mais le prochain grand rendez-vous politique en Italie est fixé, comme en Autriche, au 4 décembre avec le référendum constitutionnel. Pour le chef du gouvernement, l'enjeu est d'importance puisqu'il s'agit de redonner enfin à la péninsule une stabilité politique via une transformation du Sénat et de nouvelles règles électorales. Cinque Stelle et la Ligue appellent à voter non, de même que la formation de l'ancien président du Conseil, Silvio Berlusconi. En somme, dans trois semaines, si le non l'emporte en Italie et que Hofer soit élu président de l'Autriche, deux pays de l'Union auront essuyé les premiers effets de la vague Trump.
D'autres échéances cruciales, Daniel ?
Oui, dès le mois de mars 2017, les Néerlandais renouvellent leur parlement. Geert Wilders, le leader du PVV, le Parti pour la Liberté, vient de déclarer « Les Américains retrouvent leur pays, nous allons rendre nous aussi leur pays aux Néerlandais ». Depuis son médiocre résultat aux élections européennes de mai 2014, où il n'avait obtenu que 13% des suffrages, le PVV est bien remonté dans l'opinion puisqu'il est désormais crédité de 23%. Pour l'instant, c'est insuffisant pour en faire le premier parti du pays et offrir ainsi la tête du gouvernement à Geert Wilders. Mais si les six premières semaines du mandat de Donald Trump devaient marquer les esprits, le populiste néerlandais pourrait créer la surprise.
Enfin reste l'Allemagne.
Oui, nous ne parlerons pas du Royaume-Uni où les populistes ont déjà remporté leur victoire avec le Brexit et où, d'ailleurs, leur popularité est en baisse. Ce n'est pas du tout le cas d'Alternative für Deutschland qui a surpris tout le monde début septembre en terminant devant la CDU à 21%, aux élections régionales du Mecklembourg-Poméranie. Actuellement, l'AFD est donnée à 16% dans les sondages pour les élections générales de l'automne 2017. La formation eurosceptique reste derrière les deux partis de gouvernement. La CDU est créditée de 32% et le SPD de 22%, mais elle pourrait sérieusement perturber la formation d'une future coalition gouvernementale. En attendant, l'AFD exulte. Un de ses responsables a déclaré que l'establishment devait reconnaître que l'on ne peut gouverner à la longue sans le peuple. Ainsi, dans les 10 mois qui viennent, 5 pays de l'Union vont nous permettre de vérifier si l'élection de Trump donne le signal du premier bouleversement politique majeur en Europe occidentale depuis la fin de la dernière guerre.
Daniel Vigneron de MyEurope.info, à bientôt dans Accent d'Europe.
À bientôt Laurent.
Ce jeudi soir, des milliers d'Irlandais seront vissés à leur fauteuil devant leur télé pour regarder le nouvel épisode de Gogglebox Island. Le show hebdomadaire met en scène des familles ou des amis qui regardent et commandent des programmes de télévision. La version anglaise, déjà populaire en Irlande, a désormais sa déclinaison nationale sur TV3 depuis la rentrée. Un gros succès dès le premier épisode avec près de 400 000 téléspectateurs, Julien Lagache.
Gogglebox Island est devenu un rituel pour ceux qui aiment regarder la télévision confortablement installés dans leur canapé, verre de vin ou tasse de thé à la main, exactement comme les protagonistes de l'émission. Et pendant 45 minutes, on scrute leurs réactions, comme lorsqu'ils suivent ce documentaire de la BBC sur les Galapagos, où les iguanes marins doivent, dès leur naissance, échapper à la menace d'un prédateur.
Uh-oh. I know what's gonna happen.
Des serpents poursuivent les jeunes iguanes dans une course folle. Elle tient en haleine tous les participants qui entraînent les spectateurs avec eux.
Oh my God, Jesus Christ.
Les visages sont tendus, parfois crispés. Le documentaire maintient le suspense, tandis que l'adrénaline monte tant chez les participants que chez les spectateurs, jusqu'au moment où un iguane réussit à s'échapper de la gueule d'un serpent. Des émotions particulièrement communicatives, et comme chez n'importe qui, la télé provoque des réactions, des discussions ou des blagues, notamment à propos de Naked Attraction, une émission dans laquelle une jeune femme déçue par ses précédentes rencontres découvre des hommes nus et doit n'en garder qu'un en les jugeant uniquement sur leur physique.
Junk in the trunk, do you see that?
Bien sûr, la star ici, ce ne sont pas les programmes choisis, mais les personnages, qu'ils soient jeunes ou vieux, en famille ou entre amis, c'est leur regard et leurs commentaires qui attirent le public, fasciné par l'intimité de ces gens issus des quatre coins de l'Irlande. Ainsi, les deux retraités, Aileen et Angela, ont fait rire le pays avec leur couvre-théière en tricot à l'effigie du président Michael T. Higgins. Mais les chouchous des spectateurs, ce sont les jumeaux Tully, Neil et Fergal, originaires de Cavan, dans le Nord. Désormais, tout le monde connaît leur canapé avec repose-bière au centre, les chaussettes très colorées de l'un, les t-shirts de l'autre, et leur goût pour les sarcasmes froids mais hilarants, comme dans cette séquence où Neil se moque de Mayo, l'une des équipes de football gaélique les plus malchanceuses de l'histoire.
Poor horse. They have to have a life of losing their Mayo supporters.
Un humour qui déchaîne chaque jeudi les réseaux sociaux, car pendant et après chaque épisode, Twitter se remplit de commentaires des téléspectateurs sur l'émission du soir, de quoi alimenter encore un peu plus la mise en abîme créée par Gogglebox.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette émission. Accent d'Europe à retrouver demain dès 12h40 en universel. Également sur internet sur RFI.fr à la page émission. Dans moins de 30 secondes maintenant, à un nouveau journal sur RFI.